Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez et Cécile Brulot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile.
Bonjour Damien.
Allez, c'est le fait divers de tous les superlatifs, le plus retentissant, le plus indéchiffrable, le plus mystérieux et enfin peut-être le plus médiatisé. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès éclate le 21 avril 2011 lorsque la police judiciaire de Nantes découvre 5 corps enfouis sous la terrasse du domicile situé au 55 boulevard Schumann. La dépouille d'Agnès, l'épouse, mais aussi celle d'Arthur, de Thomas, d'Anne et Benoît. Tous les regards convergent alors vers un seul et unique homme, le mari, le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, dont les autorités ont perdu la trace. Certains affirment qu'il s'est suicidé, d'autres estiment qu'il s'est complètement volatilisé dans la nature et qu'il est toujours en vie. Et c'est le cas de sa sœur, Christine Dupont de Ligonnès, qui avance dans un ouvrage très documenté une théorie pour le moins déroutante. Bonjour Stéphane Goldenstein.
Bonjour Jean-Monsieur.
Vous êtes l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès et de son mari Bertram de Verdun, qui sortent aujourd'hui ce livre édité aux éditions HarperCollins. Ça s'appelle Xavier, mon frère présumé innocent. Alors nous allons en parler en détail au cours de cette interview, mais je vais me permettre déjà de dévoiler la théorie principale qui y est présentée. Xavier Dupont de Ligonnès serait en réalité un agent de la DEA, la DEA étant l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue. Et pour des raisons de sécurité, il aurait été exfiltré, lui et toute sa famille, vers les États-Unis, ce qui signifie que les corps retrouvés à Nantes ne seraient pas ceux de sa famille. La première question que je voulais vous poser est un peu provocante, volontairement, mais est-ce que ce livre est complotiste ?
Mais évidemment.
Il est complotiste.
Mais il est complotiste, parce qu'à partir du moment où vous considérez que nous ne soutenons pas et que mes clients ne soutiennent pas la vérité médiatique, judiciaire, je suis dans le complot.
Oui.
Sauf que, à la différence de ceux qui soutiennent que les avions ne sont pas écrasés dans les tours jumelles,
qui est une
vérité absolue.
Oui.
J'ai juste constaté qu'il y a des zones d'ombre, des zones troubles, des éléments contradictoires. Et tout ça, personne n'en parlait.
Oui.
Et quand on met bout à bout, vous savez, c'est le fameux grain de sable qui enraye la machine judiciaire.
Oui.
Ce petit grain de sable qui bloque. Et ben, en fait, Christine et son époux qui ont travailler le dossier, comme je n'ai jamais vu des parties civiles travailler un dossier pour leur recherche de vérité, avec un axiome de base, c'est Xavier n'a pas pu faire ça, Xavier nous a fait une lettre à tout le monde pour nous expliquer ce qui allait se passer.
Envoyé 10 jours à peu près avant sa disparition.
Envoyé 5 jours avant sa disparition, et 10 ou 11 jours avant la découverte des cadavres.
C'est ça.
Et en réalité, il envoie cette lettre à la famille, et ma cliente est persuadé que son frère lui dit la vérité. Ensuite, 10 jours plus tard, on retrouve les cadavres, et là, effectivement, c'est un chamboulement pour elle et pour toute la famille, naturellement.
Oui.
Christine décide, face à l'emballage médiatique, l'emballement, je vais dire.
Oui, l'emballement, on va dire.
Je faisais un mauvais jeu de mots. mais face à cet emballement médiatique, décide de prendre un avocat, parce que d'un côté, vous avez des vieilles histoires de sectes qui ressortent, qui reposent sur rien. D'autre part, elles ne comprennent rien à ce qu'est une procédure judiciaire, un juge d'instruction, des mandats d'arrêt, des policiers, etc. Et donc, elles viennent me voir. Et très objectivement, quand elle vient me voir Christine, pour moi, c'est une partie civile comme une autre. La malheureuse, elle est tante, elle a perdu ses neveux et nièces.
Absolument.
Et elle vient me voir et elle me dit, bon, je lui explique ce qui va se passer, quand on va consulter le dossier, quand on va constituer partie civile et qu'on va voir ce qui s'est passé. Et là, elle me dit, oui, maître, mais mon frère, c'est pas possible. Alors, je dis, oui, bien sûr, madame.
C'est pas possible parce qu'il est innocent, selon
vous. Oui, c'est pas possible parce qu'il est innocent. Et là, elle me donne la lettre dont personne n'avait connaissance. Enfin, dont personne dans les médias n'avait connaissance.
Oui.
Et là, je lis la lettre, et là, je dis, ah ouais, le dossier n'est pas du tout le dossier auquel je pensais.
Et c'est
d'un père qui tue toute sa famille, comme ça peut arriver, malheureusement, et que l'actualité nous apprend régulièrement. Et là, je me dis, ah, il y a cette lettre, il y a ma cliente qui est persuadée que son frère lui dit la vérité, et puis ma cliente me dit, ils disent qu'en plus, on fait partie d'une secte, alors qu'il n'y a jamais eu de secte. Donc là, je me dis, bon, bah, je vais réagir. Et comment je réagis, initialement, c'est, d'abord, il y a des camions de presse devant la maison, ils attendent d'attraper la mère de l'assassin, celle qui est à l'origine du mal.
Oui, les journalistes campés devant le domicile de Christine Dupont de Ligonnès.
Donc là, pas d'autre solution. J'ai décidé avec des amis journalistes de couper dans le vif et de faire donner des interviews à la mère, à la sœur. Ouais. Comme ça, elle n'intéressera plus personne. Et c'est ce qui à peu près s'est passé. Sauf que quand elles ont donné des interviews, elles ont dit arrêtez d'aller dans un seul sens. Pourquoi vous êtes persuadé que Xavier a tué tout le monde ?
Ouais.
Et là, elles ont donné un certain nombre d'éléments.
qui sont effectivement dans ce livre, en partie
parce qu'à l'époque on n'avait pas tout le dossier, parce qu'il faut quand même remercier les enquêteurs, parce que les enquêteurs ils ont quand même fait un travail d'investigation qui permet d'être examiné, mais avec un double regard. Soit vous avez le regard à charge, soit vous avez le regard à décharge, ou alors vous avez un regard objectif. Moi, j'ai essayé d'avoir un regard objectif, et dans ce regard objectif, j'ai exhumé ce que les enquêteurs mettaient sous la moquette.
Absolument, et c'est ça qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on apprend énormément d'éléments. Alors, je me permets de préciser que vous n'avez pas la prétention d'apporter la vérité, mais la vérité, en tout cas, de celle de Christine Dupont de Ligonnès et de son mari. On va dévoiler justement les éléments dont vous parlez dans quelques instants dans cette interview, mais je vous propose tout d'abord de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Cécile Brelot. Allez, on commence ces news médias justement avec une information qui vous concerne tout particulièrement, cher maître Stéphane Goldenstein. C'est Christine Dupont de Ligonnès qui poursuit sa tournée médiatique.
Donc exactement, samedi soir, aux côtés de son mari Bertram de Verdun, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a fait une apparition remarquée dans Quelle Époque. Interviewée par Léa Salamé, Christine Dupont de Ligonnès présente son livre Contre-enquête. Xavier, mon frère présumé innocent, rebelote ce matin par exemple sur RTL, dans la matinale avec Amandine Bégaud, une invitation qui stupéfait plusieurs téléspectateurs et auditeurs. Je cite par exemple « Inviter cette femme pour déblatérer de telles choses et ainsi emboîter le pas aux complotistes en tout genre » ou encore « Chaque journaliste devrait avoir une responsabilité dans le traitement de l'information ».
Est-ce que vous avez été surpris par ce raz-de-marée médiatique à la suite de l'interview de Léa Salamé samedi dernier sur France 2 ?
Non, parce que je m'y attendais. Je vais vous dire, dès qu'il y a la moindre petite information sur cette affaire, tout le monde saute dessus et se déchaîne. Et j'ai droit à tous les commentaires. Mais Christine est descendue dans l'arène samedi soir. Je savais que c'était une arène et je savais qu'elle allait passer pour complotiste. Vous êtes gentil. Il y en a beaucoup qui me disent qu'elle est complètement barge et qu'elle est complètement folle.
Oui. C'est les critiques qu'on a pu lire ici ou là sur les réseaux sociaux.
Vous êtes gentil, complotiste. Ouais. Je vous l'ai dit, on l'est.
Je l'assume
clairement. Je n'ai pas la prétention de connaître la vérité. Ouais. Donc à partir du moment où je n'ai pas de vérité, je suis forcément obligé de développer des thèses différentes de celles que vous pouviez éventuellement partager avant d'avoir lu ce livre.
Absolument, les thèses officielles.
Et donc forcément, c'est pas un complot.
Et vous en avez
mais
pensé
lisez,
quoi
lisez
de...
la définition sur Internet de complotisme.
Oui, c'est pas forcément négatif, absolument.
C'est pas forcément, c'est celui qui conteste une vérité qu'on assène,
la thèse
pas
officielle.
La vérité originelle.
Absolument. Vous en avez pensé quoi de l'interview de Léa Salamé sur France 2 ?
Je savais que Christine allait être bombardée de questions. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'on arrive directement à la fin. C'est-à-dire, un peu comme vous d'ailleurs, vous commencez votre présentation en disant voilà, la sœur soutient que son frère est de la DEA et que les corps ont été substitués.
Parce qu'il faut poser les bases, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans cette
affaire. Non, mais c'est la base, mais justement, c'est sa conclusion. Oui. C'est sa conclusion à Christine après 350 pages, c'est de dire voilà, je vous ai soumis l'hypothèse A, l'hypothèse B, l'hypothèse C, vous avez bien lu. Et ben moi, l'hypothèse A, il y a une porte qui est fermée, la culpabilité. Mais elle explique pourquoi c'est fermé, il manque la clé.
Oui, alors vous dites que c'est la conclusion, ce qui est vrai, mais elle en parle quand même assez vite dans le livre de la DEA, quand même.
Parce que c'est la lettre. Elle la met, la lettre, c'est une extension.
Dès
les premières pages, elle donne les bases.
Mais
elle donne tout, même la fameuse lettre d'un an auparavant où il dit qu'il va tuer tout le monde.
Oui.
Elle est très objective.
Complètement.
C'est-à-dire, elle n'est pas comme Society, elle donne tout.
Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, elle a retranscrit la lettre qui est pour le coup authentique.
Et à charge. Et très à charge. Qu'elle retourne. En disant, ah, mais peut-être mon frère, un an auparavant, lui avait dit de prévoir une éventuelle exfiltration parce qu'il était agent secret. C'est farfelu, hein. Mais apportez-moi la preuve du contraire, cher monsieur.
Bien sûr.
Eh bien, monsieur.
Alors, une question aussi que je voulais vous poser, c'est que les médias sont fascinés par cette affaire. On l'a rappelé, en 2020, TF1 a même diffusé une mini-série portant, inspirée en tout cas, de cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, portée par Arnaud Ducret. Vous l'aviez regardée, cette série-là ?
Elle est très, très mal faite.
Elle était très mal faite. Ah ouais, pourquoi ?
Parce que ça ne correspondait pas vraiment comme celle avec Canmera, qui avait été très bon, que j'adore comme acteur.
Oui.
Mais ça ne colle pas. Enfin, c'est très compliqué à mettre à l'écran, cette affaire.
C'était très compliqué.
Et d'ailleurs, même tous les documentaires qui ont été faits sur cette affaire, ils laissent un goût d'amertume parce qu'on n'a pas la fin.
On n'avait pas la fin, absolument.
Et je vais vous dire.
Mais parce que la fin, on ne la connaît pas non plus.
Ah non, mais la fin, moi, je vais vous dire qui la connaît.
Qui ?
Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, lui-même. Simplement, il n'est plus là pour en témoigner.
Ou ceux qui ont participé avec lui à cette histoire.
Mais vous parlez d'une arène médiatique, est-ce que vous pensez que...
C'est un combat d'MMA, madame.
Est-ce que vous pensez qu'elle est assez prête? Comment elle se sent là depuis qu'elle fait la tournée?
Elle prend des forces, je trouve qu'elle prend des forces. Vous voyez, chez Léa Salamé, elle a été un peu désarçonnée, j'ai eu l'impression, et c'est pour ça que je me suis dit que j'aurais dû être sur le plateau au moins taisant. Mais pour réagir ou éventuellement préciser des questions de Mme Salamé, bon, je suis sorti en disant que j'avais fait une erreur moi personnellement, mais Mme Salamé a fait très bien son travail. Ouais. Bon, De Chavannes a été un peu lourdeau, mais c'est pas grave, je crois que c'est le thème de son émission, de rebondir.
Oui, il est là pour rebondir.
Il est là pour rebondir et donner un peu d'intérêt. Moi, j'ai trouvé que Léa Salamé avait fait un vrai travail de journaliste, comme son habitude. Sauf qu'effectivement, elle a désarçonné ma cliente qui s'est retrouvée un peu coincée à certaines de ses questions. Depuis, j'ai décidé d'être présent. Donc, quand elle est interrogée, je suis présent, mais je suis taisant.
Oui.
Donc ce matin sur RTL, la diffusion, j'étais là, mais taisant.
Oui.
Elle a été, elle sera chez Monsieur à l'heure du crime.
Oui. Sur RTL aussi, oui.
Pareil, je serai taisant.
Mais vous serez là.
Mais là, j'ai beaucoup plus confiance parce que j'ai affaire à un vrai professionnel.
Vous êtes en train de dire que Léa Salamé n'est pas une vraie professionnelle.
Un vrai professionnel du fait divers.
Excusez-moi. Qui connaît bien son métier, bien l'univers de Xavier Dupont de Ligonnès.
Comme ce soir, il y aura une interview sur W9. C'est une vraie professionnelle qui connaît le fait divers. Enfin, excusez-moi d'être méchant, mais non, il y a le professionnel qui fait un peu tout.
Oui.
Et il y a le professionnel,
le
spécialiste du fait divers, et qui fait que ça. Et forcément, les questions ne sont pas les mêmes, parce que le généraliste va poser des questions généralistes, et le spécialiste va poser des questions très précises. Mais je ne dis pas ça pour vous.
Non, mais je ne le prends pas personnellement, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on est assez généraliste.
Mais là, vous me posez des questions à moi, donc c'est facile.
Oui, bien sûr.
Parce que moi, je peux vous répondre un peu dans tous les sens. Mais quand vous posez la question à Christine Dupont de Ligonnès, qui est quand même victime, qui a une position qui est difficile à soutenir, et qui est droit dans ses bottes et qui vous regarde droit dans les yeux pour soutenir cette position, eh bien, il ne faut pas la prendre but en blanc. Et dans W9, vous verrez, la présentatrice a été en entonnoir. En entonnoir pour arriver à la fin. Bon, très bien, je vous ai écouté, je vous ai laissé parler, je vous ai expliqué. Un peu comme un policier, comme un policier.
Figurez-vous que dans la deuxième partie de cette interview, c'est un peu ce que l'on va faire. On va reprendre ce livre par ordre chronologique et puis on va parler de la première partie qui porte sur les sectes et ensuite des éléments pour arriver à la fin. Donc, cette théorie dont on a parlé tout à l'heure en introduction. On termine juste les infomédias avec une séquence télé incroyable. C'est Marianne, nos confrères, qui l'ont retrouvé, un tueur en série dans un jeu de Nagui.
Oui, donc c'est Le Grillé, alias François Véronne, qui avait participé à Tout le monde veut prendre sa place, diffusé sur France 2 en 2019. Donc ce gendarme, puis policier, marié, bon père de famille, est un tueur et violeur récidiviste qui a été recherché depuis près de 35 ans, avant de s'être donné la mort en septembre 2021 et avoir reconnu ses pulsions meurtrières.
Et ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur, quand on le regarde, on se dit que c'est monsieur tout le monde qui est inséré dans la société, comme si de rien n'était, alors que ce monsieur a tué, violé par le passé. Est-ce que vous pensez, au fond de vous-même, que Xavier Dupont de Ligonnès est aujourd'hui en France, dans la société, sous une autre identité, ou bien qu'il est reclus dans une ferme complètement paumée dans le Wyoming ?
Mais l'intérêt du dossier Dupont de Ligonnès et de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que c'est monsieur tout le monde.
C'est monsieur tout le monde, oui, c'est vrai.
Ouais, c'est exactement monsieur tout le monde qui est pas un criminel.
Mais aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est toujours parmi nous ?
J'en ai aucune idée.
Vous savez pas ?
Mais
vous n'avez pas un avis, enfin, en tout cas, au regard des éléments que vous avez eus, puisque vous avez eu connaissance
du
dossier.
Si vous voulez, après, c'est ma réflexion personnelle, elle est appuyée sur rien du tout, mais... Si vous voulez, c'est un père de famille qui commet un quintuple assassinat, qui tue ses enfants, derrière, c'est le suicide automatique, quoi. Ouais. Pourquoi créer tout ça? Pourquoi faire ce simulacre? Pourquoi surtout pas se suicider tout de suite dans la foulée? Allez, même s'il cache les corps, il veut pas que la famille soit au courant que les corps soient là, et qu'il pense qu'on va jamais les retrouver, tout en ayant écrit au milieu de la lettre, n'allez pas voir sous la terrasse. Bon, même s'il pense ça, mais on se suicide dans la foulée, on va pas se balader.
C'est l'une des théories, en tout cas.
Qui, expliquez-moi ce que vous en pensez d'aller se balader du 10 au 15 à travers toute la France. C'est invraisemblable. Ouais. Et puis, pour finir dans un Formule 1, retirer 30 euros à un distributeur, mais qu'est-ce qu'il va faire de ces 30 euros s'il va se suicider? Ou alors, il n'a pas eu le courage de se suicider.
Mais peut-être.
Et dans ce cas-là, il est encore en vie.
Et dans ces cas-là, il est encore en vie.
On peut toujours supporter aussi cette culpabilité. Peut-être que c'est ce qu'il a réussi à faire.
Oui, parce comme que... Richard Roman, à l'époque, ouais. c'est un des faits divers qui ressemble un peu, enfin le plus, j'allais dire, à cette affaire. Effectivement, quand il était au bout du rouleau, après avoir menti toute sa vie, il a tué tout le monde, il a essayé de se tuer, puis il s'est raté, et puis après il a fini 20 ans ou 30 ans en prison, et puis maintenant je crois qu'il est dans un monastère. Mais effectivement, ça y ressemble, mais je sais pas ce que... Je sais pas. Si effectivement, Xavier est l'assassin comme ce monsieur-là qui était sur le plateau de la télé, c'est monsieur tout le monde, mais je n'ai pas de raison, je n'ai pas de mobile, enfin... Oui. Vous allez en parler, mais des mobiles...
Ce livre comporte plusieurs parties. La toute première, justement, c'est sur la relation de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès à la religion. Je vais vous poser la question très rapidement et de façon très simple. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès faisait partie d'une secte ?
Non.
Non, voilà. Ça c'est très clair. Mais c'est vrai que c'est aussi la thèse qui est défendue.
En réalité, je vais vous dire d'où ça sort.
Ouais.
En réalité, comme cette affaire est médiatique, on s'est dit on va l'utiliser.
Ouais.
On va utiliser la dérive sectaire pour justement renforcer les pouvoirs de la Midilude, qui est un organisme très sérieux, qui est un organisme très sérieux de lutter contre les sectes. Et comme cette affaire est médiatique, on va utiliser cette affaire médiatique pour expliquer que les sectes sont dangereuses en France. Et à l'époque, il y avait Georges Fenech qui était président de la Midilude, qui a raconté tout et n'importe quoi. Oh, j'ai hésité à le poursuivre en diffamation. Vous imaginez pas
pourquoi vous l'avez pas fait ?
Parce que si je m'amuse à poursuivre les gens en diffamation, j'aurais fait ça depuis 10 ans.
Parce que c'est Georges Fenech qui effectivement a poser les bases d'un tueur sous emprise d'une secte, c'est vrai. À ce moment-là, vous auriez pu contre-attaquer en justice.
Mais j'ai contre-attaqué dans la presse, c'était tellement simple dans ce dossier. J'ai même pas besoin d'aller demander un droit de réponse devant un tribunal, puisque on me donne la parole le lendemain matin.
Ouais.
Sauf que ma parole n'est pas écoutée, puisque ça n'intéresse pas. C'est plus marrant d'avoir la mère qui fait partie d'une église de Philadelphie qui n'existe pas. Sauf que Philadelphie, a priori, c'est un des chapitres de la Bible. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Philadelphie.
Qui annonce Apocalypse.
Oui, c'est ça, si vous voulez, ce qu'a fait Bertram de Verdun surtout, c'est qu'il a tout mis par écrit. Alors c'est un peu long.
Oui.
C'est un peu long, mais au moins c'est très explicatif. Oui. Ils racontent tout, leurs convictions religieuses.
Alors c'est clair, pardon de vous couper, mais en 95, Jean et Alix, qui sont les grands-parents maternels de Bertram de Verdun, amis de la famille de Dupont de Ligonnès, décident d'enlever leurs enfants de l'école à la suite d'un message divin indiquant que le niveau scolaire se détériore, en particulier le niveau spirituel. Est-ce que vous reconnaissez que dans ce cas particulier, finalement, il s'agit un peu plus d'intégrisme quand même que d'une relation raisonnée à la religion ?
Non, mais en fait, il donne toutes les explications. C'était effectivement le bruit qui avait circulé. Mais la Geneviève Dupont de Ligonnès n'est absolument pas responsable.
La maman
de Xavier, elle n'est absolument pas responsable des choix des uns et des autres. Si vous voulez, il y a un élément qui est totalement hallucinant et qui est repris. Hein, c'est que que Christine, la sœur, a été jetée en partouze avec 25 bonhommes.
Oui, c'est ce qui a été dit.
C'est invraisemblable.
Lors d'une soirée, je crois, en Bretagne, avec un certain Conrad.
Une partouze catholique.
C'est
invraisemblable. Et en fait, c'est resté, si vous voulez, ça a été exhumé, et puis vous savez, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et bien en réalité c'est resté, et le procureur de l'époque, le procureur Ronsin, avait quand même fait une dépêche en disant on a exploré la thèse de la secte, il n'y a rien à voir. Mais non, la presse se jette dessus, c'est trop intéressant.
En 2003, donc, Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille décident de s'exiler aux États-Unis. Ils reviennent en France seulement quelques mois plus tard. Donc toute la famille s'interroge sur ce retour précipité. Quel argument fait-il valoir à ce moment-là ? Il y a aussi la question de l'argent commence à arriver.
Vous avez raison. Alors c'est vrai que ça, c'est un élément intéressant qui n'a pas du tout été creusé par les enquêteurs, mais qui va dans la thèse de Christine de la fuite aux États-Unis, de la DEA, tout ça. Qu'est-ce qu'a été faire cet homme, effectivement, et sa famille pendant plusieurs mois aux États-Unis pour peut-être l'Eldorado, vous savez, une nouvelle vie. Pourquoi Xavier, postérieurement à 2003, lors de la naissance d'un enfant, il est parti tout seul avec un copain pendant plusieurs mois alors que son gosse venait de naître. Et tout ça fait naître dans l'esprit de Christine, qui raccroche les wagons les uns derrière les autres en se disant forcément la lettre elle est vraie, il y a quelque chose aux États-Unis, effectivement c'est pour ça qu'elle en parle.
C'est pour cette raison qu'elle en parle. Et d'ailleurs ensuite, alors c'est vrai que le 11 juillet 2010 il est tellement aux abois, parce que vous avez parlé effectivement des difficultés financières qu'il a, il est tellement aux abois qu'il envoie en juillet 2010 à ses deux meilleurs amis qui sont Emmanuel et Michel une lettre qui explique un petit peu les dispositions à prendre en cas de drame. Je vais vous en lire une toute petite partie. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions: me foutre en l'air avec ma voiture, foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. À partir du moment où on lit cette lettre, on se dit bon, il n'y a pas de débat, c'est forcément lui.
Lisez la suite.
La suite, elle fait 6 pages.
Non, la suite. Que surtout, ma famille
ne pense pas que je suis responsable de ces crimes, même si les éléments m'accablent. En gros, c'est ça.
Christine le prend au pied de la lettre.
Donc voilà,
elle dit, il m'a prévenu qu'il allait se passer quelque chose et que je ne devais surtout pas prendre les preuves apportées judiciairement comme des preuves certaines.
Alors si exfiltration il y a, d'accord, on va partir du principe que cette théorie est valable. Quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur Xavier Dupont de Ligonnès ? Pourquoi faut-il absolument qu'il suit, qu'il fuit ? Il parle d'un procès.
Comprenez-moi bien, et je l'ai expliqué à ma cliente, si véritablement il y avait eu un procès, il aurait déjà eu lieu.
Mais bien sûr.
Et donc il serait sorti de sa caverne.
Oui, parce que c'était soi-disant un témoin privilégié de cette affaire.
Bon, Christine est persuadée que son frère dit la vérité. Moi, je suis obligé de me confronter à la réalité et d'arrêter, là, pour le coup, d'être complotiste. Je pense que ça me paraît très difficile. En revanche, dans cette lettre, il y a peut-être des éléments de vérité. On est obligé de partir. D'ailleurs, dans la lettre, il dit, il est daté du 8 de mémoire, il dit hier, on a eu une information qui nous oblige à partir.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que si on décortique la lettre, hein, qu'on extirpe de cette lettre des éléments d'information, et Christine aussi, a repris des témoignages. Et notamment deux copines d'Agnès qui disent qu'elle avait la trouille.
Ouais.
Enfin, je résume, mais elle se retournait dans la rue parce qu'elle avait peur.
Oui.
Alors certains ont dit, ouais, mais elle avait peur de sa belle-mère.
Ouais.
Bon, si vous avez peur de votre belle-mère, je ne sais pas si
ça,
vous l'avez...
Ça peut arriver,
pas,
mais...
Je ne sais pas si vous avez peur de votre belle-mère ou pas.
Vous n'avez pas envie de vous
mais vous ne retournez pas dans la rue, quand même. Vous n'avez pas peur de votre belle-mère au bout de la rue.
Oui.
Non. Bon,
Parce que dans cette même lettre, il dit, nous n'avons plus la possibilité de communiquer, nous aurons tellement de choses à nous raconter plus tard. Donc si on s'en tient à cette lettre, comme elle l'a fait, par exemple, pour la première partie, on comprend qu'il va revenir.
Oui.
Il va revenir, donc on attend Xavier Dupont de Ligonnès. Selon Christine Dupont de Ligonnès, Xavier Dupont de Ligonnès va revenir à un moment donné.
Elle l'attend ?
Bien sûr, elle l'attend. Sauf que maintenant, elle considère que, vu l'emballement médiatique et tout, il va avoir de grandes difficultés à revenir. Mais effectivement, hein, elle aussi, je reconnais, cher monsieur, chère madame, que nous sommes là encore confrontés à une porte fermée.
Oui, et il y a aussi une question qui se pose, pardon, mais si on s'en tient à cette thèse de l'exfiltration, pourquoi mettre en scène un quintuple meurtre ? Pourquoi ne pas disparaître tout simplement, comme c'est autorisé d'ailleurs, et c'est rappelé dans ce livre, une famille a le droit de disparaître, pourquoi mettre en scène un quintuple meurtre ? Et qui plus est, mettre en scène un meurtre de la femme, des enfants, et pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès ?
Mais oui, non mais parce que selon la théorie de ma cliente et de son mari, l'idée c'était de leur assurer une totale sécurité en éliminant leur présence, officielle.
Oui.
Donc on substitue des cadavres par les vrais cadavres et on leur permet d'avoir une nouvelle vie sans que personne ne
tente
les...
Pourquoi pas la sienne alors ?
Pourquoi pas lui ?
Pourquoi aussi. Pas lui ? Vous arrivez face à une porte fermée.
Ouais. Une porte fermée. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose.
Mais c'est une porte fermée. Mais comme il n'y a que des portes fermées, moi, je n'ai vraiment pas la réponse à cette superbe question.
C'est vrai que... Et on peut comprendre aussi cette thèse de Christine Dupont de Ligonnès qui indique que Xavier Dupont de Ligonnès a utilisé sa carte bleue pour acheter un certain nombre d'outils pour mettre en scène le quintuple meurtre. Selon elle, elle a décidé effectivement d'aiguiller les policiers vers lui-même, c'est-à-dire il voulait être suspect aux yeux des autorités. Simplement, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que Xavier Dupont de Ligonnès, sachant qu'il allait se suicider après ce quintuple meurtre, n'avait strictement rien à faire de paraître suspect aux yeux de la police ?
Oui, mais alors dans ces cas-là, il y a beaucoup de références qui est faite à une fameuse affaire John List aux États-Unis. List, il a disparu, mais il a laissé tous les cadavres un peu partout dans la maison.
Ouais.
Là, on a quand même affaire à un travail de terrassier. Et ça, c'est incompréhensible.
Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup, et c'est vrai que ça revient beaucoup dans ces pages, à une équipe spécialisée, qui serait sans doute une équipe mandatée par la DEA pour nettoyer les traces de sang, etc.
C'est ce que pensent Christine et son mari.
Mais il n'y a pas de témoin.
Mandatée par la DEA. Moi, j'en sais trop rien s'ils sont mandatés par la DEA. Mais ce que je sais, c'est que, bon, pour ceux qui sont un peu habitués aux scènes de crime, il fallait plusieurs pour faire ça.
Mais bien sûr, et puis il y aura eu des témoignages. Il y a des témoignages qui indiquent, et là on a tendance à croire d'ailleurs ce passage-là, qui indique que Agnès Dupont de Ligonnès était en vie bien après la date de sa mort officielle. Il y a beaucoup de témoins qui disent l'avoir vu dans la rue.
Par contre,
il n'y a pas de témoins qui indiquent qu'il y a eu des mouvements suspects autour de cette maison.
Je vais être très objectif. En fait, tout repose sur l'allégation selon laquelle ils sont morts en sortant du restaurant dans la nuit du 3 au 4, le fameux jour où il y a laissé un message sur son répondeur téléphonique totalement hallucinant. On sait que derrière, il va mettre des cachets dans la nourriture de la famille et il est tué dans leur lit. Et donc, en fait, ce qu'elle cherche à démontrer, c'est que la mère de famille n'a pas pu mourir entre le 3 et le 4 parce qu'un certain nombre d'éléments permettent de penser qu'elle a été vue au moins jusqu'au 7 ou au 8.
Oui, et là, il y a beaucoup de témoignages.
Il y a beaucoup de témoignages, mais ça a été balayé.
Ouais.
Parce que pour...
Pourquoi d'ailleurs ?
J'en sais rien, c'est la doctrine dominante. La doctrine dominante, c'est il a tué sa femme, il a tué ses 4 enfants et les 2 chiens, et puis ensuite, il les a enterrés, et puis ensuite, il a écrit des lettres, et ensuite, il est parti, tout en allant, vous imaginez, c'est le temps qu'il faut, tout en allant à Angers, vider la chambre de bonne du gamin, qui était étudiant là-bas, et le temps est très élastique chez M. Delibérès.
Hein. On arrive déjà au terme de cette interview, ça passe vraiment vite, on a encore 1000 choses à dire sur ce livre, mais aussi, et c'est très troublant, vous dites que la famille n'a pas eu accès au corps après la découverte des dépouilles, et là aussi ça pose question, il y a eu des expertises ADN, simplement personne n'a pu avoir accès...
Non, la difficulté c'est pas ça. La difficulté concernant les corps, c'est que vous avez effectivement des expertises ADN qui sont très précises, qui disent que c'est la même famille, mais de l'autre côté vous avez des autopsies qui ont été mal faites, me semble-t-il, mais dans laquelle ma cliente s'engouffre en disant il n'y a pas les bons poids, il n'y a pas les bonnes tailles, bon, faudra lire le livre, mais vous verrez. C'est avéré. Et là, on se dit, bah oui, Agnès, qui est plus grande à l'autopsie que le nez en réalité, en général, on a tendance à se grandir sur une pièce d'identité, pas à se rapetissir. Enfin, notamment les femmes, je suis désolé, mais en tout cas, ma femme.
La vôtre, c'est mon expérience. Eh bien, merci beaucoup, Maître Stéphane Goldenstein. Franchement, cette émission aurait pu durer 52 minutes, tellement ce livre est passionnant, et surtout, on a envie de vous opposer effectivement d'autres questions aux éléments qui sont indiqués dans ce livre, parce que tout cela évidemment est très mystérieux et pose beaucoup de questions. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès et de Bertram de Verdun qui sont à l'origine de ce livre.
Ainsi que de la maman.
Vous êtes également l'avocat de la maman, Geneviève Dupont de Ligonnès. Merci d'avoir été notre invité.